Chapitre 27. Londres, 1981. Grace faisait la queue au restaurant universitaire quand elle reconnut la voix de Paul, qui fanfaronnait devant ses copains.
« Le pire coup de ma vie, les gars !»
meuglait-il.
« Elle fait l'étoile de mer et elle attend que ça passe. J'ai l'impression de me taper une planche à repasser. »
Des rires, des railleries. Grace baissa la tête et rentra le menton dans la poitrine. Mais du coin de l'œil, elle apercevait toujours la tignasse blond paille et la silhouette replète de Paul. L'homme avec qui elle couchait depuis 3 semaines. L'homme avec qui elle avait perdu sa virginité.
« Franchement, je suis super déçue. Les moches ont pourtant la réputation de faire des efforts à ce niveau-là. »
Nouveaux éclats de rire bruyants. Les élèves alentour commençaient à tendre l'oreille.
« Elles sont censées être reconnaissantes, non ?»
La terreur avait cloué Grace sur place. Si elle essayait de s'éclipser, elle risquait d'attirer l'attention, d'être repérée par quelqu'un. Par eux. Ils se rendraient compte qu'elle avait tout entendu, qu'elle était présente pour ce verdict cruel, et ce serait d'autant plus savoureux pour eux.
« T'es un connard, tu le sais, ça ?»
s'éleva une autre voix assez forte pour couvrir le bruit.
« Ouais, c'est à toi que je parle, Paul Connolly. Parce que je te garantis qu'aucune fille ne sera jamais reconnaissante de se retrouver coincée dans un pieu sous un gros tas comme toi. »
Le salut. Et de manière tout à fait invraisemblable, il venait de Nicholas Riley. Un garçon chétif avec une peau de lait et une poignée de taches de rousseur sur le nez. Beau à sa façon, tranquille, intelligent et drôle, avec un petit côté sarcastique qui le rendait intéressant. Nicholas était assis à la table d'à côté, et après qu'il eut interpellé Paul, ce dernier et ses amis se tournèrent vers lui. Plusieurs d'entre eux se levèrent pour l'intimider et se mirent à l'insulter. Grace en profita pour sortir discrètement de la queue, reposa son plateau sur la pile et prit la fuite, affamée mais soulagée. Après cet épisode, Grace aurait voulu éviter Nicholas. Elle appréhendait la gêne de devoir évoquer l'incident avec lui, de devoir concéder qu'elle avait assisté à la mise en scène de son humiliation publique. Hélas, on aurait dit que lui cherchait à la croiser. Elle le voyait partout, assis devant elle dans l'amphithéâtre, sur la pelouse de Russell Square pendant le déjeuner, derrière elle dans la file d'attente au cinéma de Brunswick Center.
« Ça doit être le destin !»
lui dit-il en lui tapotant l'épaule ce jour-là. « On dirait que l'univers cherche à nous rapprocher. » Il lui fit un clin d'œil et elle sut qu'ils allaient devenir amis. Il la faisait rire.
« Tu n'es pas comme les autres filles, »
déclarait-il régulièrement, ce qui la faisait rire plus que tout le reste. C'était un cliché idiot, une réplique de comédie romantique niaise, mais pour Grace, c'était vrai, elle n'était pas comme les autres filles. Elle était différente et ne savait pas comment mettre des mots sur cette différence. Mais Nick s'en fichait. Il ne lui demandait jamais de s'expliquer ni de s'excuser d'être qui elle était. Nick avait une autre amie, Audrey. Et elle non plus n'était pas comme les autres filles, mais dans un sens plus classique. Audrey n'était pas bizarre. Elle était excentrique. Elle faisait des études de psychiatrie dans la classe au-dessus d'eux. Elle était grande, anguleuse, et d'une intelligence intimidante.
Audrey est misanthrope, lui avait raconté Nick. C'est pour ça qu'elle veut devenir psy, pour comprendre pourquoi les gens sont aussi merdiques.
Cependant, Audrey aimait bien Nick, elle aimait bien Grace, et celle-ci l'appréciait également, même si par moments, elle aurait préféré qu'Audrey n'existe pas, car chaque fois qu'elle était dans la pièce, Nick semblait s'intéresser un peu plus à elle qu'à Grace. Tous trois décidèrent de s'installer en colocation dans un appartement sordide infesté de souris sur Gooch Street. Ils devinrent vite inséparables. Très sérieux, ils travaillaient beaucoup. Peu à peu, ils s'éloignèrent des autres étudiants et de leur propre famille. Enfin, Grace avait trouvé sa place, sa tribu. Elle se débarrassa de la honte de la solitude comme on jette un vêtement devenu trop petit. L'été suivant, ils s'entassèrent dans la Vauxhall Astra de Nick, direction la France. Ils campèrent une semaine sur une falaise de Saint-Malo, où tous les soirs, ils jouèrent aux cartes et burent du mauvais vin rouge jusqu'à s'en rendre malade. À Noël, comme aucun d'eux ne voulait passer les vacances en famille, ils restèrent dans leur affreux petit logement, à manger des pizzas ou des plats indiens à emporter en regardant des films sur cassette vidéo. Début janvier, Grace se réveilla un jour avec un terrible mal de ventre.
Rapidement, la douleur empira, si bien que Nick fut contraint d'appeler un taxi et d'accompagner son amie fiévreuse et délirante à l'hôpital universitaire, où on lui diagnostiqua une rupture de kyste et une infection. Elle fut aussitôt prise en charge, mise sous antibiotiques, et resta une semaine sous perfusion. Le quatrième jour, elle retrouva enfin assez de clairvoyance pour s'étonner que ni Nick ni Audrey ne soient venus la voir. Elle se demanda d'ailleurs si la fièvre ne lui avait pas fait perdre la mémoire. Peut-être qu'ils étaient passés? Mais non, le personnel soignant, qui insistait régulièrement pour qu'elle contacte un proche en vain, confirma qu'elle n'avait reçu aucune visite. Ils n'avaient pas le téléphone chez eux. Quand on l'autorisa à quitter l'hôpital, Grace n'avait pu prévenir personne. Et elle partit seule dans un vent glacé, sous les regards apitoyés des infirmières. Arrivée devant son immeuble, elle prit quelques instants pour souffler et se préparer à faire bonne figure. Puis, elle gravit les marches et déverrouilla la porte. Le froid qui régnait dans l'appartement silencieux laissait deviner qu'on n'avait pas allumé le chauffage depuis plusieurs jours. Les affaires d'Audrey et de Nick avaient disparu. Ils étaient partis sans laisser d'adresse et sans même se fendre d'un petit mot pour expliquer leur départ précipité. Grace ne connaissait pas le numéro de téléphone de leurs parents respectifs. Ils n'avaient pas prévenu l'université qu'ils arrêtaient leurs études et ils n'avaient pas non plus payé le loyer. Grace n'y comprenait rien et il n'y avait plus personne pour lui expliquer. Elle avait appris à se considérer comme faisant partie d'un trio. À présent, qu'est-ce qu'elle était? Elle avait bien conscience que ce qu'elle ressentait n'était pas normal. Il s'agissait d'une amitié, après tout, pas d'une histoire d'amour. Elle n'avait aucune raison d'avoir le cœur brisé. Et puis, ses amis n'étaient pas morts. Il n'y avait pas de deuil à porter. Pourtant, la reprise des cours fut insoutenable. Elle était sûre que dans son dos, tout le monde parlait de ce qui s'était passé. Certaine que tout le monde savait. Grace avait aimé Nick et Audrey. Et eux ne l'avaient pas aimée. Elle essaya de se plonger corps et âme dans ses études. Rien n'y fit. Elle était épuisée. Symptôme de dépression ou contre-coup de la maladie qui l'avait envoyée à l'hôpital. Bientôt, elle fut incapable de sortir de son lit le matin. Des pensées inquiétantes firent leur apparition. Des pensées intrusives et persistantes. Elle s'imaginait se faire du mal. Elle s'imaginait mettre fin à ses jours. Elle aurait aimé savoir ce que cela ferait à Nick. Mais elle avait peur qu'il ne l'apprenne jamais, qu'il ne le remarque même pas. Elle avait peur de se donner la mort pour rien. Elle avait peur qu'il revienne un jour et la découvre dans cet état. Cela la terrifiait. Alors, elle fit ce qu'on est censé faire dans ces cas-là. Elle alla voir son généraliste et lui parla de ses problèmes. Il l'adressa à une psychologue, une femme douce et patiente. Si Grace ne put jamais se confier totalement à elle, elle suivit ses conseils. Reposez-vous, donnez-vous le temps de récupérer. Ainsi, elle décida de prendre une année de pause. Une fois qu'elle eut quitté l'appartement pour un studio, elle se trouva un poste de secrétaire et à côté, elle se lança dans le bénévolat dans une maison de retraite. Elle reprit en main son régime alimentaire et son rythme de sommeil. Une fois par semaine, sans faute, elle consultait sa psychologue. Lorsqu'elle retourna à l'université à la rentrée suivante, elle se remit au travail et décrocha son diplôme. Bref, elle fit tout ce qu'il fallait faire. Ce qui demeurait de toute cette histoire après coup n'était pas tant le choc de l'abandon, ni le chagrin ou le rejet, mais l'intolérable honte de cette débâcle. L'humiliation cuisante de découvrir qu'il existait des règles qu'elle ne comprenait pas, qu'en dépit de ses efforts acharnés, elle n'arriverait jamais à ressentir les bonnes émotions à la bonne intensité. Elle sauta sur la première occasion de fuir Londres et atterrit en Écosse, d'abord à Édimbourg, puis sur la côte ouest. Les petites villes, les régions rurales lui seraient plus favorables, pensait-elle. Là, elle pourrait réessayer de faire ce qu'il fallait comme il le fallait et tenter d'échapper à son anormalité. Mais son anormalité refusait de l'abandonner. Elle ne cessa jamais de poursuivre Grace et l'accompagna partout, jusqu'à Iris.